sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bon début de semaine à tous. Merci d'être avec nous. Merci de votre fidélité. L'antenne vous appartient dans 30 minutes. Vos réactions, et elles sont extrêmement nombreuses ce matin. Vous êtes très nombreux à souhaiter commenter la condamnation de Vital Kamerhe à 20 ans de prison au terme d'un procès sans précédent en République démocratique du Congo. Le directeur de cabinet du président de la République, Félix Tshisekedi, a été reconnu coupable d'avoir détourné près de 50 millions de dollars de fonds publics. Ses avocats dénoncent un simulacre de procès. Ils ont d'ailleurs immédiatement fait appel. Il faut dire que dans le camp de Vital Kamerhe, on dénonce une manipulation politique pour empêcher cette personnalité politique d'être candidate à la présidentielle de 2023. 20 ans de prison donc. Que vous inspire ce verdict? Peut-on parler d'un complot politique ou faut-il voir dans ce procès un tournant dans la lutte contre la corruption? On en parle donc. Vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 193 70, vos réactions sur Facebook et WhatsApp, évidemment. Pour être très honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps de toutes les lire. Plus d'un millier de réactions postées rien que sur Facebook. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter la réflexion. Mais d'abord, vos questions à la rédaction pour mieux comprendre l'actualité. Bruce, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue Bruce, vous êtes à Brazzaville et vous souhaitez que l'on revienne sur la longue bataille diplomatique que se sont livrés le Kenya et Djibouti pour décrocher un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies.
Oui.
Eh bien, on vous écoute, oui, Bruce.
Monsieur Wang, je profite de cette occasion pour rendre d'abord hommage à tous les médecins qui continuent à être sur la première ligne de lutte contre la pandémie Covid-19. Bon, ma question est celle-ci. L'ONU a renouvelé la semaine dernière les membres non permanents du Conseil de sécurité. Après un bras de fer entre le Djibouti et le Kenya, c'est finalement le Kenya qui a été désigné pour occuper le siège africain. Je voudrais savoir pourquoi ces deux pays qui appartiennent au même continent se sont opposés cette année pour le siège.
Ah, bonne question, effectivement. On va tenter de comprendre et de voir ce qui s'est passé en coulisses durant ces 12 derniers mois. Bonjour Sébastien Lemaitre.
Bonjour Juan, bonjour à Bruce.
Correspondant permanent de RFI au Kenya. Rappelons Sébastien que l'Afrique a droit à 3 sièges de membres non permanents. Ils sont renouvelés tous les 2 ans. D'habitude, les candidats sont choisis par consensus, mais cette fois, ça ne s'est pas passé comme prévu.
Voilà, normalement, les pays africains, en fait, négocient entre eux à l'avance, à travers les réunions de l'Union africaine, notamment, pour qu'au final, le continent envoie à l'ONU 3 noms de pays choisis, en fait, en amont, par siège. Comme ça, le jour du vote, il n'y a pas vraiment de compétition, puisque pour chaque siège, on a un candidat unique, donc on sait qui va être élu. C'est en fait un système utilisé pour éviter qu'il y ait des tensions entre les pays et qu'il y ait une alternance aussi, que ce soit pas toujours les mêmes, mais que chaque nation ait un peu une chance d'aller au Conseil de sécurité. Et d'ailleurs, pour 2 sièges sur 3, ça avait encore fonctionné cette année, puisque le Niger et la Tunisie avaient déjà été choisis. Mais pour le troisième, ça a été beaucoup plus compliqué, on l'a vu, puisque ni le Kenya ni Djibouti n'ont accepté de se retirer au profit de l'autre.
Pourtant, si on suit le principe de l'alternance, Sébastien Lemaitre, ça semblait plutôt être le tour de Djibouti.
Oui, plutôt, puisque le Kenya a déjà été membre non permanent 2 fois, en 77 et 97, donc il y a plus de 20 ans. Or, Djibouti, de son côté, n'a siégé qu'une seule fois, en 93, donc ça fait plus de 25 ans cette fois. C'était d'ailleurs l'argument des Djiboutiens, qui ont dit, nous, on a siégé moins souvent que les Kenyans. La dernière fois, c'était il y a plus longtemps qu'eux, donc c'est notre tour. Mais le Kenya l'a pas entendu de cette oreille. Nairobi, c'est quand même l'un des pays les plus puissants d'Afrique, que ce soit en termes économique, diplomatique, militaire, etc. Ça a probablement joué. Et il y a eu aussi de multiples réunions au niveau de l'Union africaine. L'institution avait finalement soutenu le dossier du Kenya. Donc là, ça aurait dû être plié, entre guillemets. Nairobi était le candidat. Mais Djibouti a contesté, disant que la procédure n'avait pas été respectée, que le choix aurait dû être validé en février au sommet des chefs d'État africains. Or, ça n'a pas été le cas. Bref, bon, je vais pas aller trop dans le détail des procédures, Juan. Toujours est-il qu'on a eu deux pays pour un siège jusqu'au vote final à New York. Et puis, bah, c'est Nairobi, comme vous l'avez vu, qui l'a emporté.
Oui. Faut dire tout de même que l'enjeu est extrêmement important puisque les sièges de membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies sont des postes tout de même prestigieux, très influents, très prisés.
Voilà, le Conseil, c'est l'organe international principal chargé de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Or, une décision se prend à la majorité des 15 voix, c'est-à-dire les 5 voix des membres permanents et les voix des 10 membres non permanents. La différence, évidemment, c'est que les 5 membres permanents, ben, par définition, siègent en permanence, à la différence des 10 autres qui ont un mandat de 2 ans, on l'a dit. Et évidemment, les 5 permanents ont un droit de veto qui peut bloquer un vote. Ça, c'est essentiel. Mais ici, il n'empêche que les postes non permanents sont très importants parce qu'ils participent au vote, donc avec une voix chacun. Et aussi, ils président à tour de rôle le Conseil de sécurité. Donc, c'est une fonction qui va servir à faire avancer leur agenda, leurs projets, les sujets qui leur tiennent à cœur, qui sont en fait des priorités pour leur diplomatie.
Ouais. Bruce, je crois que vous avez une dernière question.
Oui. Ma deuxième question est celle-ci. Comment est désigné le pays candidat au siège africain du Conseil de sécurité? Alors, et ensuite, par qui est-il élu?
Alors, comment est désigné le pays candidat? Sébastien Némette est revenu un peu sur le processus. En revanche, comment se déroule le vote exactement à New York, Sébastien Némette?
Voilà, traditionnellement, les pays sont choisis par l'Union africaine. Maintenant, une fois que ça arrive à New York, en fait, ce sont les ambassadeurs de chaque pays qui votent. Bon, ça se passe à bulletin secret. Faut 2/3 des votes pour être élu. Donc, il y avait 193 membres. Le Kenya avait besoin de 128 votes. Il y en a eu que 113 au premier tour. Donc, il a fallu organiser un second tour où la Nairobi a obtenu 129 voix. Donc juste assez pour devenir membre non permanent à partir du 1er janvier 2021, pendant un mandat de 2 ans, donc on l'a dit, et en remplacement de l'Afrique du Sud, Juan.
Voilà, merci d'avoir été complet, Sébastien Némette. Bonne journée à Nairobi, au Kenya, où vous êtes le correspondant permanent de RFI. Bruce, bonne journée également. À Brazzaville, 10h18 à Paris. D'autres questions, évidemment, à la rédaction au 33 9 693 693 70. Bonjour André.
Oui, bonjour Juan Gomez, bonjour à tous de RFI.
Vous êtes à Pala. Pala, c'est dans le sud-ouest du Tchad, hein, non loin de la frontière camerounaise, si je ne dis pas de bêtises. Quelles sont vos questions, André?
Ok, cela fait exactement, Juan, ça pouvait être 9 jours déjà que le chef de file d'opposition malienne, Soumaïla Cissé, a été enlevé dans le nord du Mali. Ma première question... Comment l'autorité malienne et le soutien de Cissé peuvent savoir qu'il va bien sans connaître l'identité de ses ravisseurs?
Ouais, bonne question que vous posez. Jeudi, cela fera 3 mois que Soumaïla Cissé a été kidnappé alors qu'il était en campagne pour les élections législatives dans son fief, dans la région de Tombouctou. Bonjour Coralie Pierret.
Bonjour.
Vous êtes l'une des correspondantes de RFI au Mali. Effectivement, et la question de notre auditeur est pertinente. On se souvient du discours la semaine dernière du président malien Ibeka, discours sur la situation politique et sociale du pays. Et le chef de l'État en a profité pour donner des nouvelles plutôt rassurantes de Soumaïla Cissé.
Oui, effectivement, il est en vie, nous avons des preuves, c'est ce qu'affirmait le président Ibeka mardi dernier. Alors, s'il a déjà évoqué le kidnapping du chef de file de l'opposition dans ses discours, c'est la première fois que le chef de l'État déclare connaître l'identité des ravisseurs. Des contacts sont établis, ajoutait même Ibeka mardi dernier. C'est vrai que depuis son enlèvement, les autorités, tout comme les membres de son parti politique, l'URD, ont toujours été rassurants sur sa santé, persuadés que Soumaïla Cissé était encore en vie. Quelques jours après son enlèvement, on se souvient, Maître Demba Traoré, le porte-parole de la cellule de crise mise en place par l'URD, avouait être en contact avec des relais locaux basés dans la région de l'enlèvement, celle de Niafungi, à proximité de Tombouctou.
Ouais, finalement, tout le monde est d'accord pour affirmer que Soumaïla Cissé est en vie. Pour autant, personne ne peut dire qui sont ces ravisseurs.
Oui, ça peut paraître étonnant, en effet, hein, comme le sous-entendait André dans sa question. Mais il faut savoir qu'il y a en fait des contacts entre les autorités et les ravisseurs. Plusieurs émissaires ont été envoyés et nous cherchons des liens pour entamer les négociations. Reconnaissez, il y a quelques jours, Ousmane Issoufi Maïga, qui est un ancien Premier ministre et qui est le chef de la cellule de crise gouvernementale pour la libération de Soumaïla Cissé. On peut supposer que ces ravisseurs donnent des garanties de vie à ces émissaires ou à ces relais. Même si après plus de 80 jours de kidnapping, il n'y a aucune revendication, on a quand même quelques indices sur les ravisseurs. Un groupe est pointé du doigt. Très rapidement, après le 25 mars, après la date de l'enlèvement, le ministre des Affaires étrangères, Tibilé Dramé, ancien directeur de campagne de Soumaïla Cissé, donc ancien proche du chef de file de l'opposition, soupçonnait la Katiba Massina d'être l'auteur du rapt dans une interview qu'il a accordée à la chaîne TV5 Monde.
Oui, la Katiba Massima, qui, rappelons-le, est membre du GSIM, un groupe avec qui le gouvernement, on s'en souvient, avait annoncé en février dernier vouloir lancer des négociations.
Oui, c'était sur notre antenne d'ailleurs, oui, que le président Ibeka entrouvrait pour la première fois la porte à des pourparlers avec Amadou Koufa et Yaga Grali, les deux leaders maliens du GSIM. Alors, il faut tout de même rappeler que des canaux étaient déjà ouverts depuis au moins 2017, malgré une fermeture de façade des autorités. Alors aujourd'hui, où en sont ces négociations annoncées officiellement ? Aucune nouvelle. Et les dernières attaques revendiquées par le GSIM, notamment celle de Bamba, où au moins 25 soldats ont perdu la vie, ne sont pas des preuves que les négociations avancent.
Ouais. Vous avez une autre question, André ?
Oui, Juan, la deuxième question, que fait le gouvernement malien pour retrouver et libérer M. Soumaïla Cissé ?
Coralie Piret.
Oui, déjà, alors rapidement, un comité de crise a été créé par les autorités, un comité mixte avec des représentants du parti politique de Soumaïla Cissé et des représentants des autorités qui essayent, je le disais tout à l'heure, de mettre en place des négociations. Il y a aussi et surtout des initiatives privées, notamment celle de la femme de Soumaïla Cissé. Elle s'était adressée il y a quelques semaines aux ravisseurs de son mari dans un audio diffusé sur les réseaux sociaux. Elle est très active et fait souvent des allers-retours entre Bamako et Tombouctou, mais dans la plus grande discrétion. Plusieurs personnalités ou institutions, comme le Parlement africain, lancent régulièrement des appels pour l'accélération des négociations et pour la libération de l'ancien président de l'UMOA, Soumaïla Cissé. Mais finalement, personne ne peut assurer que Soumaïla Cissé sera libéré prochainement. Et ce flou et aussi l'absence de revendications engendrent des spéculations, notamment sur les réseaux sociaux, sur l'identité des ravisseurs qui, selon certaines spéculations, ne seraient pas djihadistes.
À suivre donc. André, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci beaucoup, monsieur Zouane.
Remerciez surtout Coralie Piret, l'une de nos correspondantes à Bamako. Merci à tous les deux. Nous repassons au standard au 33 9 693 693 70. Nous allons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Bonjour Tim.
Bonjour Juan Gomez.
Bienvenue.
Oui, j'ai quelques questions concernant les déclarations de Donald Trump.
Oui.
Qui avait annoncé qu'il comptait fortement diminuer les nombres de militaires américains présents en Allemagne pour les porter à 25 000. Alors, qu'est-ce qui a motivé cette décision de Donald Trump ? Et comment expliquer une présence aussi importante des militaires américains en Allemagne ?
Oui, c'est vrai qu'il y a près de 35 000 soldats américains actuellement stationnés en Allemagne. Bonjour Pascal Thibault.
Bonjour Juan, bonjour Tim.
Correspondant de RFI à Berlin, Donald Trump a effectivement annoncé son intention de retirer plus de 9000 GIs. Comment expliquer cette initiative, cette décision ?
Alors, il faut d'abord rappeler que ce n'est pas la première fois que Donald Trump émet des menaces concernant la présence militaire américaine en Allemagne et que globalement il critique l'Allemagne, notamment pour un budget de la défense qui serait insuffisant ou pour d'insuffisantes contributions au budget de l'OTAN, l'Organisation de l'Atlantique Nord. Au-delà, il y a aussi des menaces régulières contre le projet de gazoduc Nord Stream 2 qui relie l'Allemagne à la Russie, contre la politique commerciale allemande ou encore la avec les menaces de droits de douane plus élevés pour les voitures américaines. Donc, dès le passé, dans le passé déjà, il y avait déjà eu des menaces sur la fermeture de bases américaines en Allemagne. Jusqu'à présent, rien ne s'est passé, donc on restait plutôt zen en Allemagne jusqu'à présent.
Et comment expliquer cette décision soudaine donc de Donald Trump, puisque si ça fait des années que les États-Unis réclament ses arriérés à l'Allemagne, comment se fait-il que désormais, Trump passe à l'acte?
Ben, encore une fois, c'est des menaces qu'il a émises régulièrement. On les a pu les entendre encore durant l'hiver. Donc cette fois-ci, c'est sans doute aussi, ça participe aussi sans doute d'une volonté de repartir en guerre entre guillemets contre un allié qui visiblement il critique régulièrement. Peut-être aussi pour le détourner l'attention des difficultés intérieures.
Ouais. Alors Tim voulait comprendre comment se fait-il qu'il y a autant de soldats américains en Allemagne. Je le disais tout à l'heure, le chiffre officiel, près de 35 000 soldats.
C'est ça, exactement. C'est un chiffre qui a beaucoup baissé. Il y a 30 ans, au moment de la réunification, il y avait 200 000 soldats américains sur le sol allemand. Alors cette présence massive, elle s'explique parce que c'est un héritage de l'après-guerre. Lorsque les quatre alliés vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis, l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et la France, ont occupé l'Allemagne avec différents secteurs qui leur revenaient. Ensuite, il y a eu un statut différent pour ces forces. Et puis, il y a eu une baisse sans comme je le disais, depuis la réunification, l'Allemagne étant recouvrée sa pleine souveraineté, et puis l'Allemagne, les États-Unis ayant depuis réorienté leurs interventions extérieures. Il y a 10 ans, par exemple, on avait 57 000 soldats américains sur le sol allemand, contre, vous le disiez, 34 500 aujourd'hui, avec une présence qui est aussi stratégiquement importante. C'est de là qu'à Stuttgart, les États-Unis commandent des interventions dans 51 un pays dans le monde. C'est de la base aérienne de Rammstein qu'on commande aussi les interventions de drones dans des pays très éloignés. C'est aussi en Allemagne qu'on a l'hôpital militaire le plus important en dehors des États-Unis, ou aussi un terrain d'entraînement qui est considéré comme le plus performant.
Oui, des bases américaines qui servent aux États-Unis d'escale aux forces qui sont ensuite déployées en Afrique ou au Moyen-Orient. Une dernière question, Tim.
Oui, alors comment l'Allemagne accueille-t-elle cette décision présentée comme une punition?
Ah, une punition. Est-ce perçu comme une punition à Berlin, Pascal Thibault?
Non, pas tout à fait. Les réactions d'ailleurs étaient plutôt sobres. D'abord parce que, comme je le disais, ce n'est pas la première fois qu'il y a de telles menaces. Parce que, évidemment, les États-Unis, même avec Donald Trump à leur tête, restent un allié important qu'on ne veut pas froisser. On attend de voir concrètement. On se demande ici à Berlin si ce n'est pas une menace avant tout rhétorique, mais qui ne se traduira pas dans les faits. Dans les milieux gouvernementaux, on pense que peut-être le Pentagone va rechercher une solution pour satisfaire le président américain, sans peut-être mettre les choses véritablement en cause. On estime aussi ici que finalement, avec cette décision, si elle devait se traduire dans les faits, eh bien, les États-Unis se tirent une balle dans le pied, pour être familier, parce que finalement, ces troupes, j'évoquais leur importance stratégique pour les interventions militaires dans le monde des États-Unis, elles ne servent pas à la protection de l'Allemagne, mais soit à celle de l'Europe, et plus spécialement des pays plus à l'Est, et aussi elles servent de base arrière pour de nombreuses interventions américaines dans le monde. Donc on estime ici que finalement c'est une décision qui serait négative pour les intérêts américains.
On verra en tout cas si les menaces de Donald Trump sont effectives ou pas, ou si une fois de plus Donald Trump a lancé comme ça des mises en garde, comme il le fait très souvent sur les réseaux sociaux. Merci infiniment Pascal Thibault d'avoir pris quelques minutes pour répondre à Tim, à qui nous souhaitons une belle journée à Kinshasa en République démocratique du Congo. On va parler justement de la RDC juste après le journal, et vous allez revenir sur la condamnation de Vital Kamerhe, 20 ans de prison pour le directeur de cabinet du président de la République. Il a été reconnu coupable d'avoir détourné près de 50 millions de dollars de fonds publics. Alors certains d'entre vous applaudissent dès demain ce verdict. C'est un message fort, nous dit par exemple Léon sur Facebook, fort pour tous ceux qui pillent les caisses de l'État. En revanche, Louis-Marie estime que ce procès marque surtout la fin de l'impunité en RDC. C'est un signal pour les autres. On en parle évidemment, c'est un verdict qui ne vous laisse pas indifférent. 33 9 693 693 70. À tout à l'heure.